culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour et bienvenue à notre culte espoir, chers auditeurs, chères auditrices. Nous voilà partis pour 60 minutes ensemble avec notre Papa Céleste pour échanger, étudier la parole de Dieu, louer, prier. Je me réjouis. Avec moi aujourd'hui, les chroniqueurs Marilyn et Stéphane. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis notre invité du jour, Lucas Marilly. Bonjour.
Bonjour.
Alors Lucas, c'est le deuxième culte que nous vivons ensemble. La semaine dernière, tu nous as parlé du chemin de l'épanouissement entre désir, sens du devoir, force morale, tout un programme, dis-donc. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas eu l'occasion de t'écouter d'aller voir ce culte. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler ?
Aujourd'hui, on va parler de comment lire la Bible avec les bonnes lunettes.
Ouh, je trouve toujours passionnant de prendre du temps pour parler de la Bible, de l'importance de lire la Bible dans son ensemble, Ancien, Nouveau Testament, de voir comment Dieu, Père, Fils et Esprit, se révèle à travers celle-ci, à travers les époques. Alors merci pour ce thème, je me réjouis. Et alors Seigneur, viens guider ce temps de culte, nos paroles, nos réflexions, afin que ton nom soit élevé, que tu puisses te révéler à nous. Que ce soit un temps qui te soit agréable et que nos yeux puissent nous tourner pleinement vers toi. Allez, on commence tout de suite avec notre première chronique, Dieu dans ma semaine. Alors Stéphane, que souhaites-tu nous partager aujourd'hui ?
L'autre jour, avec mon fils, on a eu la chance d'assembler notre propre couteau suisse. Donc on avait toutes les petites pièces. On avait les instructions, on a dû tout monter pour vraiment avoir un couteau suisse fonctionnel.
Mais c'est pas compliqué.
Il y avait une marche à suivre, il y avait quelqu'un qui nous aidait comment utiliser l'appareil, mais c'était vraiment intéressant voir toutes les petites pièces assemblées, avoir un outil qu'on peut utiliser partout. Et en voyant cela, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant d'avoir un outil qui nous aide tous les jours dans notre propre situation, dans notre vie. Mais est-ce que cet outil existe vraiment ?
Bonne question.
Et oui, Dieu nous a donné cet outil, et c'est la Bible. Elle n'est pas un simple livre avec des histoires, elle est bien plus que ça. C'est le couteau suisse de la vie. La Bible contient plusieurs conseils qui sont valables encore de nos jours. Par exemple, surtout pour moi, des conseils sur comment les enfants devraient être avec leurs parents. Vous pouvez découvrir sur les 10 commandements, dans le livre d'Exode 20:12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Dans le livre de Proverbes, tu trouveras plusieurs textes qui peuvent nous aider. Un de ces textes nous aide à élever nos enfants qui se trouvent dans Proverbes 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a aussi des conseils pour les couples. Un exemple, dans le livre Éphésiens 5, 25, Dieu donne un conseil aux maris, surtout pour moi. Pour les maris, cela signifie d'aimer vos femmes comme le Christ aime l'Église. Il a donné sa vie pour elles.
Amen.
Je peux aussi continuer à citer plusieurs textes. Il y a des centaines, des milliers de textes qui nous aident dans toutes les situations de la vie, dans les difficultés, dans les moments de joie, dans l'amour, aussi qu'on est jeune, qu'on est grand, qu'on est petit. Mais à titre personnel, au moment dans ma vie où je n'avais plus de maîtrise de ce qui se passait, je ne savais pas comment résoudre le problème. Je ne savais vraiment pas quoi faire. À ce moment-là, la Bible a fait son apparition. Quand j'ai prié Dieu, il m'a répondu par un texte biblique qui se trouve dans les psaumes 37:5. Il dit « Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Ce texte a pris tout son sens. J'ai pu mettre mes angoisses dans les mains des dieux et j'ai pu avancer. J'ai pu trouver un réconfort. Plusieurs d'entre nous ont un ou plusieurs couteaux suisses, mais il est rangé dans un tiroir. Il est utilisé peu de temps, de temps en temps, si on a vraiment besoin. La Bible, c'est plus que ça. Elle mérite vraiment d'être utilisée tous les jours pour des petits ou grands problèmes, à chaque interrogation que nous avons et à tout moment. Dieu utilise la Bible pour nous parler, pour nous aider dans la vie de tous les jours. La Bible peut être un ancien livre, mais elle est toujours d'actualité.
Amandine, quelle est la promesse du jour que tu as choisie? Alors, j'aimerais te partager ce qui est arrivé à deux disciples. Alors qu'ils venaient d'être témoins de la mort de Jésus, ils étaient sur le chemin pour se rendre à Damas. Quand Jésus ressuscité, qu'ils n'ont pas reconnu sur le moment, les rejoint sur leur chemin. Ils ont beaucoup de mal à comprendre et digérer la mort de leur maître, et Jésus va leur expliquer les Écritures. Dans Luc 24, verset 27, il est dit: commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans les Écritures. Jésus va les inviter à une lecture et une interprétation des textes sacrés où c'est lui qui est révélé à travers ces textes. Et voyez les conséquences que cela a sur les disciples. Verset 32. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Jésus, se révélant à eux à travers la parole, a eu pour effet de les enflammer d'un feu plein d'espérance, de douce chaleur, de passion. Eh bien, c'est la promesse que je te partage. L'étude de la Bible dans son entièreté, Ancien et Nouveau Testament, avec l'aide de Jésus et pour laisser Jésus se révéler, peut avoir le même effet chez toi et chez moi que cela a eu chez ses disciples. Et bien pour ce temps de louange, je vais continuer dans la suite de ce que tu nous as proposé, Amandine, comme réflexion. Et je vous propose un chant qui nous rappelle ce Jésus qui est annoncé dans l'Ancien Testament, qui est présenté, qu'on voit évoluer dans le Nouveau Testament à travers plusieurs histoires. Il est l'espoir des nations, l'espoir de notre avenir et aussi l'espoir pour aujourd'hui dans nos situations qu'on vit tous les jours. Et ce chant reprend plusieurs caractéristiques de ce qu'il est. Alors je vous propose de bien écouter les paroles de ce chant.
Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la
chronique Dieu agit, nous avons été retrouvés Daniela Gelbricht. Elle a partagé avec nous trois cultes, dont le premier culte de cette année sur le psaume 23. Elle y parle un peu de son histoire, alors nous avons saisi l'occasion de ce culte pour en savoir un peu plus. Je nous laisse écouter. Bonjour Daniela.
Bonjour Marilyn.
Merci d'avoir accepté de partager avec nous un morceau de ton histoire. Il y a quelques temps déjà, tu nous as partagé une série de messages. Et aujourd'hui, dans le thème qu'on va aborder sur la Bible et puis comment on découvre Dieu à travers la Bible, eh bien, tu as une histoire à nous partager par rapport à ton cheminement avec Dieu.
Oui, c'est ma propre histoire. C'est toujours un peu difficile de partager sa propre histoire, mais je vais le faire avec grand plaisir. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon papa est pasteur, j'ai grandi avec les histoires de la Bible, surtout avec les histoires qu'on raconte aux enfants. Il y a aussi des histoires qu'on ne raconte pas aux enfants, hein, il faut le dire. Mais j'ai grandi avec cela, et mes parents sont adorables. Bon, j'ai connu la Bible très très tôt, mais après, quand j'étais ado, j'allais dans ce lycée un peu pour haut potentiel, pour les gens haut potentiel. Donc les professeurs étaient vraiment très très performants, très compétents. Et j'ai beaucoup aimé ce cadre poussé, donc la philosophie, la littérature, les sciences humaines m'ont beaucoup intéressée. Et aussi mes amis, parce que j'avais mes amis dans ce lycée-là, pas forcément à l'église. C'est intéressant parce que mon papa est pasteur et j'ai grandi avec cela, mais je n'ai jamais eu un contact chaleureux avec l'église. Hein. C'était vraiment un peu bizarre parce que, voilà, mon papa pasteur, mais voilà, l'église, ce n'était pas mon truc. Et surtout en tant qu'adolescente. Et à l'école, j'avais vraiment un contexte très, très favorable à la réflexion. La littérature a un côté très, très existentiel. Donc, ça parle de la vie, ça parle de monde, voilà, qui est brisé, les relations humaines compliquées, voilà, les abîmes du cœur humain. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté existentiel. Et quelquefois, à l'église, ça m'a manqué. Voilà, c'est plutôt la dogmatique, voilà, et j'avais vraiment du mal à m'intégrer à l'église, et là, c'est clair, on s'éloigne de l'église, et aussi de la Bible, voilà, de l'éducation qu'on avait, ou que j'avais. Et au lycée, j'avais beaucoup d'amis, et grâce à mes amis, j'ai vu aussi un peu le côté sombre d'une vie sans Dieu. C'est clair, j'avais des copines qui fumaient, qui prenaient de la drogue aussi, qui avaient des relations sexuelles tout le temps avec quelqu'un d'autre. Voilà un peu la vie actuelle, mondaine, etc., qui existe. Et ça m'a fait aussi réfléchir, parce que je me suis dit, est-ce que je veux finir comme elle? Et en plus, au lycée, j'étais un peu, je dis toujours la psychologue du lycée, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu me voir. Ils m'ont demandé des conseils, ou ils m'ont raconté qu'on ça n'allait pas avec un garçon, etc., une rupture amoureuse, etc. Les gens sont venus me voir, et j'ai vu un peu les abîmes du corps humain. Hein, et aussi le désespoir, l'addiction. J'avais un peu la panoplie d'une vie, et les deux côtés, parce que les apparences trompent. Parce que quand il y avait une fête, tout le monde était joyeux, voilà, et le visage souriant, un peu ça, mais la vie intérieure, vide, désespérée et brisée. Et ça m'a fait réfléchir, et en plus, j'allais moi-même arriver à un point où je me suis demandé, mais comment tu vas continuer comme ça? Tu es la psychologue des autres, tu n'as presque personne qui t'écoute aussi, un peu la solitude qui se crée. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment je vais continuer comme ça? Je peux pas. Et on est ado, et on a aussi des chantiers. Il y a des questions vertes, il y a des questions existentielles, voilà, auxquelles il faut au moins avoir une piste de réflexion. Pas de réponse, mais une piste de réflexion. C'était vraiment compliqué pour moi, et je me suis rendu compte, voilà, en lisant la littérature, c'est beau, j'aime beaucoup, mais quand même, ça ne remplit pas le vide. On reste vide. J'avais de bonnes notes à l'école, mais quand même, on reste vide. Et même les relations humaines, les amitiés, on reste seul. Même dans un groupe, on peut se sentir très très seul. Et j'ai fait cette expérience, j'étais très appréciée, aucun problème, mais quand même, il y a quelque chose qui manque. Et à ce moment-là, je voulais vraiment couper les ponts avec l'église, parce que je me suis dit, non, je ne peux pas continuer dans ce sens-là. Mais je me suis dit, avant de couper les ponts, il faut au moins avoir lu le texte qui est fondateur pour le christianisme. Il faut le faire. C'est l'honnêteté intellectuelle, finalement, de faire cela. Et je ne voulais jamais quitter Dieu. Pour moi, Dieu, aucun problème. C'est plutôt l'Église qui me posait problème, je suis honnête. Et là, j'ai pris la Bible, j'ai pris l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament était tellement connu. J'ai pris l'Ancien Testament et j'ai commencé à lire les prophètes. Et paradoxalement, c'est là que j'ai rencontré Dieu. Et par ce biais, j'ai commencé à aimer aussi le Nouveau Testament, donc la rencontre avec Jésus. Cette rencontre avec Jésus a pris de la profondeur grâce aussi à l'Ancien Testament, hein, aux textes qui sont là, qui interpellent, qui racontent l'histoire de l'humanité ou la vie humaine sur cette terre. Et j'ai trouvé dans ce texte biblique ce côté existentiel qui m'a manqué dans le discours de l'Église. C'est paradoxal, hein, je sais. Mais j'ai creusé, j'ai beaucoup lu ces textes-là. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. Et le contexte dans lequel je me trouvais n'a pas forcément changé. J'avais les amis, l'école, etc. Mais à l'intérieur, la vie intérieure a beaucoup changé. Et j'ai fait l'expérience, grâce à Dieu, grâce à cette rencontre avec Dieu, à travers les textes bibliques, j'avais une présence dans ma vie. Une encre qui m'a tenue, un ancrage qui m'a tenue. Et à ce moment-là, c'est très très étonnant, j'avais beaucoup d'amis qui sont venus me voir, les amis du lycée, qui ont commencé à me poser des questions par rapport à Dieu. Parce qu'ils savaient quand même que mon père est pasteur, et ils ont commencé à poser des questions, parce que tout le monde était un peu désespéré, en quête de sens aussi, hein, on veut se trouver, avoir une identité, etc. Donc, il y avait beaucoup de désespoir finalement, derrière les visages souriants, hein, il faut le dire, hein, et la beauté, etc. Et là, pour moi, c'était un privilège d'être à l'écoute des autres et d'avoir trouvé ce Dieu grâce au texte biblique, hein, et une lecture autodidacte. Pour moi, la Bible, à ce moment-là, a été vraiment une parole qui a parlé dans ma situation existentielle de l'époque. Donc, elle m'a trouvée là où j'étais. dans ma solitude, dans mes déchirures, avec mes brèches, mes failles et mes questionnements, mes, avec mes colères aussi, voilà, et avec ma révolte. Oui, elle m'a trouvée là. Pour moi, il y avait quelque chose derrière les textes. Hein. Ce sont des textes, mais il y avait quand même derrière ce texte quelqu'un qui est vivant. On voit que le Christ, Jésus, Dieu, c'est une réalité. Pour moi, c'était une réalité incontournable. Une présence, un ami aussi. C'est devenu hein, vraiment quelqu'un de très très proche. Et dans mes solitudes les plus atroces, il était là, finalement. Et ça m'a fait une expérience qui me tient jusqu'à l'heure actuelle, finalement. Hein. C'est quelque chose qui reste. Pour moi, c'était vraiment une quête de sens. Et à l'époque, très existentielle, hein, qui a sauvé ma vie, finalement. C'est, wow. C'est un peu ça aussi.
Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage.
Avec plaisir.
Et merci à Dieu de ce chemin qui t'a permis de faire.
Merci.
La Bible avec des lunettes particulières. Explique-nous ça, Lucas.
Oui, eh bien, pour parler de cela, j'aimerais commencer par évoquer une très vieille chanson qui a été écrite en 1971 par un groupe, chantée par un groupe d'enfants appelé les Poppies. Si vous êtes curieux, vous pourriez aller voir ça sur Internet.
On ira voir.
Et la chanson s'appelle « Non, non, rien n'a changé ». C'est une chanson à la mouvance hippie. écrite en pleine guerre du Vietnam, qui fait un constat malheureux. Les êtres humains ne font que changer de défaut en restant essentiellement les mêmes.
Très optimiste.
Voltaire avait déjà dit la même chose. Pourtant, la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer est d'une autre teneur. Dieu donne à toute personne qui s'ouvre à lui la possibilité de progresser, de vivre le changement, de continuellement naître de nouveau. L'évangile, dans son essence, est la possibilité, jour après jour, d'un changement de cœur, d'objectif, de perspective, de pensée, de regard, d'allégeance, de conviction, de priorité, de sentiment et, au-dessus de tout, de destinée. Dieu ne change pas, la Bible dit, c'est Jacques qui l'écrit, que chez lui, il n'y a ni changement, ni éclipse, ni ombre de variation. Pourtant, ce Dieu immuable se prête à la logique du changement. Or, attention, il ne s'agit pas de dire que Dieu change sa manière d'être. Ce qui change, en fait, c'est ma compréhension de Dieu. C'est ma vision de Dieu qui change, de manière, ma manière de le comprendre, d'apprécier sa pensée, sa volonté, son caractère, ses intentions. Dieu, lui, désire de m'attirer toujours plus près de son cœur, de sa pensée. Et changer ma manière de penser Dieu, c'est accepter d'être changé dans mon esprit à son image et à sa ressemblance. Alors, de quelle manière Dieu s'y prend, selon les Écritures? Dieu a décidé de se dévoiler petit à petit, selon notre capacité de le comprendre. Il l'a fait dans l'histoire de l'homme, et il continue de le faire dans la vie de chacun de nous. Il nous prend par la main, là où nous sommes, et petit à petit, il nous fait d'abord mettre debout, ensuite marcher, et enfin courir. S'il nous avait obligés de courir tout de suite, il nous aurait tous perdus. Mais son but reste de nous faire courir. Alors, au niveau des connaissances scientifiques, nous avons fait des magnifiques bons en avant. Certes, on a gardé des convictions pendant des années, voire des siècles, mais à un moment donné, il a fallu avancer. Alors, certains, aujourd'hui encore, croient que les tournesols suivent la course du soleil, alors que ce n'est pas le cas. Selon une légende urbaine, si on avale un chewing-gum, il faut 7 ans pour le digérer, mais alors non. Que ce n'est pas vrai. On croyait que les chauves-souris étaient aveugles, c'est faux, elles ont des yeux et elles voient très bien de jour comme de nuit. Ou encore, on croyait que le taureau est excité par la couleur rouge, c'est faux, le taureau ne distingue pas les couleurs.
Mais non!
Il charge ce qui bouge et ce qui le défie.
Ah bah tu vois, je viens de nous apprendre un truc.
Et bien voilà, donc au fur et à mesure que la connaissance augmente, notre compréhension de la réalité fait un bond en avant. C'est la même chose avec notre compréhension de Dieu. C'est pourquoi Dieu se dévoile à la vitesse qui nous est congéniale. C'est aussi pourquoi on imagine Dieu selon nos paramètres et nos convictions du moment. L'être humain change et avance dans ses connaissances. Donc, notre compréhension de Dieu change aussi. C'est normal, c'est naturel, c'est nécessaire. Ce qui n'est pas normal est de vouloir se fossiliser et de chanter allègrement avec les poppies. Non, non, rien n'a changé. La Bible témoigne de la manière dont Dieu, le même hier, aujourd'hui et demain, se dévoile, en nous apprenant d'abord à nous tenir debout, à marcher et ensuite à courir. Il est important de comprendre cela car c'est ainsi qu'il faut apprendre à lire la Bible. C'est un dévoilement progressif de Dieu. Il ne faut pas tout aplatir, il ne faut pas lire la Genèse comme on lit l'Évangile de Jean, par exemple. Il y a une direction, il y a une progression de la relation et dans la connaissance de Dieu. Alors, quelques exemples. Il fut une époque où, selon les Écritures, il fallait punir par la mort les transgresseurs de la loi. On lit par exemple dans le livre du Lévitique, « Celui qui blasphème le nom du Seigneur sera mis à mort. Toute la communauté le lapidera, qu'il soit immigré ou autochtone. » Ou encore, « Celui qui frappe mortellement un être humain sera mis à mort. » Il fut une époque où les hommes pouvaient acheter des esclaves, et c'était réglementé. Dans les Écritures, on trouve des textes qui expliquent comment il faut faire et comment il faut le traiter, ou s'ils veulent rester toujours esclaves, quelles sont donc les marques qu'ils doivent porter. Il fut une époque où il était conseillé d'éduquer son enfant, si nécessaire, en le frappant avec un bâton. Proverbe 23, « N'épargne pas la correction au jeune homme. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas, t'inquiète pas.
Ouais, » c'est difficile de comprendre aujourd'hui ça.
« En le frappant du bâton, tu sauveras sa vie du séjour des morts. » Oui, il fut une époque où on était machiste, violent, raciste. Il y avait alors des lois et des paroles qui étaient imprégnées de la mentalité de l'époque. mais qui pourtant avait l'ambition de limiter les dégâts et d'améliorer la condition humaine. Mais ce n'était pas suffisant. Heureusement, Dieu a beaucoup de patience. Il accepte que nous ayons une vision partielle de son véritable visage pour avoir enfin une chance de nous conduire à la pleine lumière. Et cette pleine lumière, nous l'avons en Jésus. Alors certes, Jacob dit dans Genèse « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». C'est tout aussi vrai que Moïse, on trouve donc sur Moïse ce témoignage, que le Seigneur lui parlait face à face comme un homme parle à son ami. Pourtant, dans le Nouveau Testament, on nous dit quelque chose qui va bien au-delà de cette relation face à face entre Moïse, Jacob et d'autres dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a par exemple l'ouverture de l'Épître aux Hébreux qui contient ces mots. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils, qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils-là est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Dans le même sillage s'inscrit le début de l'évangile de Jean, ce qu'on appelle le prologue, une partie du premier chapitre, où le texte nous dit « La loi a été donnée par Moïse, certes, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu-Fils unique qui est sur le sein du Père. » Donc, c'est vrai que Moïse et Jacob ont pu voir Dieu, mais personne ne l'a vu comme son Fils. Alors, c'est en Jésus, et non pas en Abraham, en Jacob ou en Moïse, que nous avons la plus haute révélation de Dieu. Jésus est la manifestation ultime de la mentalité de Dieu. C'est par lui que Dieu accomplit son œuvre en lui. Alors, cela a une implication très importante, parce que lorsque nous lisons la Bible, il faut désormais lire la Bible avec les yeux de Jésus. L'apôtre Paul avait très bien compris, et il avait écrit aux Galates, « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême, et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. » Et alors, il n'y a plus ni juif ni païen, donc les barrières ethniques tombent. Il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, les barrières sociales tombent. Il n'y a plus ni homme ni femme, les barrières sexistes tombent. Car vous tous êtes un, unis en Christ. Alors, lorsque nous lisons un texte biblique, il faut reconnaître qu'il est marqué, tout texte biblique est marqué par la culture de l'époque et par les limites imposées par cette culture. Il faut alors se munir de ces lunettes que Jésus nous offre, qui sont donc sa parole, sa personne, ce qu'il représente, ce qu'il signifie, ce qu'il a voulu montrer de Dieu. Et c'est cela qui nous aide à garder dans le texte ce qui doit être gardé et à mettre de côté ce qui peut désormais être mis de côté, ce qui n'est plus compatible avec l'évangile de Jésus. Alors oui, l'ancienne loi exigeait de punir la transgression par la mort, mais Jésus, tout en dénonçant ce qui est destructeur, rappelle que le but de Dieu est la vie et la transformation des êtres humains, et que la loi suprême est celle de l'amour. L'ancienne loi exigeait que le pardon s'obtient seulement après la confession, mais l'évangile enseigne que le pardon que j'accorde ne dépend pas de l'état d'âme de l'autre. L'ancienne loi exigeait de ne pas commettre de meurtre, mais l'évangile me dit de respecter chaque être humain par la parole et par la pensée. La loi dit « œil pour œil », mais l'évangile dit « ne te venge pas ». La loi dit « purifie-toi et seulement ensuite approche-toi de Dieu », mais l'évangile me dit « laisse le Seigneur Jésus venir à toi et c'est lui qui t'aidera à faire du ménage dans ta vie ». Alors, mon invitation est de revenir à l'Écriture, de ne pas la mettre de côté comme un livre désuet et dérangeant, de ne pas la considérer comme quelque chose qui nous menace par son langage et par ses bagages culturels parfois très éloignés des nôtres. En Jésus et par l'Esprit, Dieu nous fait le cadeau d'une lecture libératrice. Voici la pensée de Luther à ce propos. Il faut dans l'Écriture sainte distinguer l'Esprit de la lettre. C'est le Saint-Esprit et non l'Esprit humain qui permet de faire cette distinction. Lorsque j'ai devant moi un texte qui est pour moi une noix à la coque trop dure, ça veut dire un texte qui est un peu indigeste quand même, je le lance contre le rocher qu'est le Christ et j'en découvre le fruit délicieux.
Oh, joli.
En d'autres termes, la coque doit tomber, mais le fruit, il reste accroché au Christ. Alors, une fois que le texte, que tout texte est lu à la lumière de Jésus, tout ce qui n'est pas compatible, je le laisse de côté. Mais je serai nourri de ce qui reste. C'est là l'évangile, la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Il s'agit d'un chemin qui me mène toujours plus loin, toujours vers l'avant, car on ne connaîtra pas Dieu pleinement que lorsqu'on le verra nous aussi face à face. Et alors, j'aimerais vous quitter avec cette pensée de l'apôtre Paul, toujours, qui écrit donc aux Corinthiens, et auquel il dit à ces gens-là qui pensent avoir déjà tout compris, ce qui pourrait être aussi parfois notre problème, mais il leur dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. » C'est une invitation pour nous aussi d'abandonner des choses que peut-être on a cru, on pensait être vraies, mais qui désormais devraient faire partie de notre passé. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse. C'est très beau ce qu'il dit, parce que tout en étant adulte, ce n'est pas pour autant qu'on a mis la main sur la vérité ultime des choses. On reste toujours dans cet état d'adulte, comme dans la contemplation de quelque chose qui nous échappe pleinement. Pourtant, on arrive à le voir, à le contempler, à en tirer un bénéfice en termes de paix, de confiance. On est sûr de l'amour de Dieu, même si on n'a pas encore cette communion parfaite qu'on aura à la fin. Alors, il dit, nous le voyons comme dans une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais un jour, nous le verrons face à face, comme Jésus d'ailleurs. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors, ce jour-là, je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Alors voilà, pouvons maintenant lire la Bible d'une manière renouvelée et sans se laisser piéger par des mots, des propos qui, effectivement, il faut le reconnaître, sont violents, sont machistes, parfois frôlent le racisme. Mais le Seigneur nous aide à faire le nettoyage de tout cela. C'est la parole de Dieu, parce que Dieu s'est manifesté en fonction des personnes avec lesquelles il a eu affaire. Et il ne peut pas se dévoiler au-delà de ce qui est supportable d'une certaine manière. Mais c'est un chemin de progression et en Christ, nous avons enfin une révélation vraiment bonifiée, on pourrait dire. Et c'est au travers de ses lunettes et de son enseignement que nous pouvons maintenant relire toute la Bible et d'en tirer ce fruit délicieux que parfois la coque pourrait cacher.
Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, tu te trouves au Culte Espoir. Nous venons d'écouter le partage de Lucas Marulli sur le thème suivant. La Bible est-elle encore actuelle aujourd'hui? Quelles lunettes pouvons-nous mettre pour pouvoir la comprendre encore aujourd'hui? Alors Stéphane, Marilyn, qu'est-ce qui vous a interpellé, questionné, titillé, dérangé ou inspiré dans ce partage? Et puis toi aussi Lucas, finalement quand on prépare un message, il y a ce que le Seigneur nous inspire de donner aux autres, puis en fait ce qu'il va aussi mettre dans notre cœur. Alors peut-être qu'est-ce qui t'a aussi toi titillé quand tu as préparé ce message? Je vous écoute Stéphane.
Plusieurs choses, déjà merci. Et la première chose, c'est que ma façon de voir Dieu ou de lire la Bible a changé. Pendant tout, comme tu as dit, quand on est enfant, on voit les histoires, et quand je grandis, surtout quand je suis devenu père, ça change complètement. Et aussi, la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Comme tu as dit, l'Ancien peut être un peu rude, mais quand on voit l'histoire de Jésus, il reprend les éléments de l'Ancien, il t'explique avec d'autres mots comment faire, sans annuler l'Ancien. Il dit non, il faut garder ça, mais d'une autre façon. Et ça m'aide beaucoup.
Et tu vois, ça, c'est vraiment une clé. Moi, je rencontre beaucoup d'amis, de personnes qui me disent « Moi, Jésus, ok, je veux bien lire le Nouveau Testament, les Évangiles. Mais alors, l'Ancien Testament, excuse-moi, c'est pas le même Dieu. C'est pas possible. Mmh. » Et c'est vrai que j'ai du mal à des fois à expliquer pourquoi, en fait, Dieu est constant. Et cette notion-là, elle est difficile à comprendre, en fait. Que Dieu est constant, Dieu est le même. Et en même temps, il accompagne l'être humain dans sa compréhension très limitée de qui il est. Je trouve que c'est une clé, et tu as parlé de la clé du Saint-Esprit, et je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel. Si on n'a pas... Ça nous demande aussi, en tant qu'être humain, une certaine humilité de se dire « Je ne comprends pas tout, je suis limitée dans ma compréhension de Dieu. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et donne-moi l'humilité d'aller relire ces textes et que tu te révèles à moi, alors que là, quand je lis ça, ça m'énerve et j'ai envie juste de fermer la Bible, de dire que c'est pas possible que c'est toi.
Ouais, voilà. Surtout quand on lit l'histoire du peuple d'Israël quand il part, c'est vraiment très strict. Mm. Mais il faut regarder aussi l'époque où ils étaient.
Mm. Tout à fait.
Ils venaient de 400 ans d'esclavage, donc c'était comme ça. Si tu parlais pas comme ça, ils comprenaient pas. donc c'est pour ça, et quand Jésus arrive, c'est ça qu'il dit, plusieurs actions, quand ils vont jeter des pierres à une femme, ils commencent à écrire, il dit non, ok, la loi est comme ça, mais seulement celui qui n'a pas de péché qui peut le faire. Ah, donc ça, il n'a pas annulé, c'est juste que c'est différent. Mm. Donc c'est vraiment ça qui est, je pense, la clé. C'est vrai que les gens, ils pensent le Vieux Testament, c'est le Dieu est très méchant, mais en fait si on lit et on fait un parallèle avec le Nouveau Testament, pourquoi tout est arrivé en Saint-Testament pour arriver le nouveau Jésus, le point central c'est Jésus, là ça change complètement la vue de l'Ancien Testament, pour moi.
J'ai l'impression que du coup, tu sais que c'est une clé de lecture, c'est-à-dire tu commences, si tu connais pas, tu commences comme instinctivement, tu commences par le début pour aller à la fin, et après j'ai l'impression qu'en fait on nous invite à revenir en arrière. Je lis l'Évangile et je reviens à l'Ancien Testament, et que c'est ce mouvement-là finalement qu'on n'a pas forcément l'habitude, et là j'aurais presque tendance à me dire, si t'as du mal avec l'Ancien Testament, va lire l'Évangile pour découvrir qui est Jésus, découvrir comment il présente Dieu, et après du coup fais-lui confiance, retourne dans l'Ancien Testament en disant mais il est où ce Jésus, et ça va t'ouvrir des portes et une compréhension que peut-être que avant t'aurais dit jamais. Et toi Marilyn, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellée?
Oui, c'était au début de ton message, tu parlais de cette envie de Dieu de partager avec nous et de vivre, d'échanger, et je trouve que c'est quelque chose à garder en tête aussi dans le moment qu'on veut prendre le temps de lire la Bible, peut-être de se rappeler que Dieu il a envie de nous montrer, de montrer des choses de lui, et que c'est pas juste des mots, mais comme on a tous échangé là, il y a un esprit, il y a quelque chose derrière et qu'il faut qu'on puisse aller creuser. Cette invitation.
Ça montre d'ailleurs à quel point Dieu, je me disais, mais il est patient, c'est un truc de... Il est tellement patient avec nous, tellement bienveillant. Moi, personnellement, je suis juste humaine. Si on m'interprétait si mal, si on m'attribuait des choses tellement mauvaises tout le temps, mais moi, ça m'insupporterait, quoi. Et là, lui, Dieu, il est bon. Il dit, il n'a rien compris de qui je suis, mais je vais l'accompagner. Comment je peux... Voilà, je trouve que c'est très beau comment Dieu est avec nous. Et toi, que tu veux, peut-être tu veux partager quelque chose?
Oui, non, je pense que vous avez saisi l'essentiel de ce que j'ai voulu partager, donc ça me réjouit vraiment, parce qu'effectivement il faut commencer par la fin, comme tu l'as dit. Il faut commencer par ce qui est plus haut, ce qui est le plus proche de la pensée de Dieu, pour pouvoir après relire et comprendre pourquoi avant on n'avait pas saisi. Et ce n'est pas simplement une question de la manière dont Dieu se révèle, mais la manière dont Dieu se révèle passe par le filtre de l'homme. Mmh. Donc Dieu n'écrit pas, Dieu n'a pas fait tomber du ciel un écrit ou des enregistrements ou des photographies. Là, il s'est manifesté aux hommes, et les hommes et les femmes, nous on écoute et on interprète en fonction de ce qui nous habite déjà. Donc c'est clair que si Dieu se révèle à moi, je suis un homme blanc, européen, du 21e siècle, bah, ce sera différent de quelqu'un qui habite en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, on a des paramètres tout différents. À fait, oui. Et donc c'est important de le comprendre. Et c'est aussi important de comprendre que quand on essaie de découvrir Jésus dans l'Écriture, Ancien comme Nouveau Testament, bah, ce Jésus n'est pas simplement le personnage figé dans les évangiles, c'est un être vivant, c'est le Dieu vivant qui interagit avec chacun de nous. Et d'ailleurs, il a dit même aux disciples dans l'évangile des Jean, il dit « J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts.
» Ouais, tu vois, je parlais d'humilité tout à l'heure.
C'est ouais, ça. Ouais. Donc même les disciples qui l'ont côtoyé, bah, ils savaient que bah, tout n'est pas dit, parce que, comme dit Grégoire le Grand, l'Écriture grandit avec son lecteur.
Bah, tu vois, ça me donne envie de dire à l'auditeur, à l'auditrice, va falloir aller chercher dans la Bible, va falloir aller creuser. Et justement, toi, cher auditeur, chère auditrice, si tu devais garder une chose de ce partage, de ce message, ce serait quoi? Alors, ce mois, j'ai lu un livre que j'ai trouvé personnellement très intéressant qui s'intitule Through Jesus' Eyes, à travers les yeux de Jésus. C'est un livre qui est coécrit par, alors désolé pour la prononciation, John Polian et Hans Larondelle, tous deux étant ou ayant été, puisque M. Larondelle est décédé, enseignant adventiste de théologie à l'université de Andrews. Ces auteurs expliquent notamment qu'il y a plusieurs approches de lecture de la Bible, comme tu l'as déjà évoqué, Lucas. Il y a une approche littérale au premier degré, une approche allégorique qui est métaphorique, symbolique, et puis l'approche qu'ils défendent, une approche typologique qui est une interprétation de la Bible centrée, comme on en a parlé, sur la personne de Jésus. Jésus, comme clé pour comprendre l'Ancien Testament. Alors d'ailleurs, Jésus va dire dans Jean 5, verset 30, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. » Les auteurs affirment que Jésus voyait l'Ancien Testament comme un témoin de lui-même. Selon Jésus, les histoires, les prophéties, les poèmes de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement dans son ministère en tant que Messie. Alors, pour cette chronique Culture B, nous aimerions te proposer, Lucas, de te mentionner quelques extraits de l'Ancien Testament qui sont peut-être un petit peu obscurs ou où on ne voit pas trop le lien avec Jésus, et te proposer de nous expliquer rapidement comment Jésus les a interprétés à travers sa personne. L'objectif de notre chronique n'est pas de faire un cours de théologie, mais de nous donner envie d'aller creuser, recreuser ces passages de l'Ancien Testament et pourquoi pas nous donner envie d'aller à la recherche d'autres passages qui renferment des trésors d'interprétation à travers les yeux de Jésus. Alors c'est parti! C'est bon pour toi, Lucas?
Très bien.
Alors Stéphane, je te laisse partager la première référence.
Dans l'Exode 16, deuxième de la Bible, deuxième livre de la Bible, le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, où il était esclave. Il se trouve dans le désert et se plaint auprès de leur chef Moïse de Dieu parce qu'il a faim. Ils se plaignent beaucoup. Hein. Au verset 4, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, je vais vous faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ce pain du ciel fut appelé la manne. » Comment Jésus a repris cet événement et l'a interprété?
Alors, de manière très explicite, il en parle dans l'évangile de Jean, où il dit qu'il est le pain descendu du ciel. Et pour comprendre ce qu'il voulait dire, il faut comprendre que cette lecture typologique dont tu as parlé tout à l'heure est une lecture qui se base sur deux prémices. C'est-à-dire que quand Jésus reprend des symboles de manière explicite ou interprète la personne de Jésus à la lumière de ces symboles, il y a toujours un double mouvement. Il y a reprise et dépassement. Il n'y a pas simplement une reprise passive.
Il reprend le symbole et puis il le fait évoluer.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas renfermer Jésus dans une case en disant « voilà, ce symbole représente Jésus, donc j'explique complètement Jésus à la base de ce symbole. »
Donc Jésus est la manne qui tombe du ciel, ce pain qui est tombé pour les Israélites,
voilà,
et c'est tout.
C'est tout. Non, il faut aller plus loin, voilà, justement. Ouais. Alors, la situation était que le peuple avait été donc libéré, mais ils étaient en train de mourir de faim. Donc, il y avait un réel danger. Et ce pain descendu du ciel montrait donc cette sollicitude de la part de Dieu de s'occuper de ces gens, de son peuple. Et en plus, il leur dit, bah, vous ne pouvez pas garder trop, vous devez prendre chaque jour sa quantité parce que sinon, bah, elle va pourrir. Et donc, il y a un double enseignement, je pense, qui est prolongé, repris et prolongé à la personne de Jésus, peut-être même plus que deux ou trois. Le premier, c'est que pour Jean, le problème fondamental de l'être humain, ce qu'il appelle péché dans son évangile, ce n'est pas la transgression d'une règle, c'est le danger de la mort. C'est cette aliénation entre créature et créateur qui fait qu'on est malheureusement dans un cul-de-sac. On va malheureusement on est destiné à mourir, et c'est à ce problème fondamental que Dieu veut donner donc une réponse, et cette réponse est en la personne de Jésus. Donc ce pain qui descend du ciel, c'est vraiment pour la vie. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe si vous voulez, c'est vraiment
une nécessité
liée à la vie. Deuxièmement, ce texte nous dit que ce pain, on peut pas le garder dans nos poches et en faire ce qu'on veut, parce que Jésus, on peut pas le maîtriser. Il est plus grand que nous, donc il est toujours devant nous, il nous dévance, et on ne peut pas donc le renfermer par une pensée, par même un texte, par une biographie. On peut en témoigner, on peut en bénéficier, mais il faut le laisser libre, parce que c'est justement plus grand de ce qu'on pourrait imaginer.
Je suis sûre qu'il y a encore 3, 4, 5, voilà, du coup, il va falloir aller creuser encore plus. J'aimerais bien prendre une deuxième référence. Marilyn, est-ce que tu pourrais nous la donner, s'il te plaît?
Oui, alors c'est dans le livre de Nombres, c'est le quatrième livre de la Bible. Au chapitre 20, le peuple d'Israël est encore dans le désert et il se plaint encore. Cette fois, il a soif et il n'y a pas d'eau. Et au verset 7, il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, prends ton bâton, convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron, vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera de son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Et que fait Jésus de ce passage?
Ben, à nouveau, c'est dans l'évangile des Jean où il s'exclame, je suis donc cette eau. Et il avait déjà dit ça à la Samaritaine qui est allé chercher de l'eau, et puis Jésus demande aussi de l'eau, et puis il en offre aussi, en disant « l'eau que je donne va produire une source infinie et tu n'auras plus soif ». Mais au fait, on revient à la même question. Il s'agit d'un besoin vital. Et ça nous ramène au fait que Jésus, finalement, c'est pas une religion parmi les autres ou un sage parmi les autres qui est venu nous dire, oui, alors sur cette question-là, il faut plutôt penser comme ci, plutôt que comme ça. Il y a plusieurs options qui sont bonnes, mais la mienne paraît meilleure. Le problème fondamental auquel Dieu a répondu en Christ, c'est vraiment le dépassement de la mort. Et ça, c'est important, d'où la symbolique du pain, de l'eau. Dans des situations extrêmes, ils étaient au désert, ils n'avaient pas d'autres ressources, il n'y avait que ça. Et donc, c'est important pour Jean, notamment, dans son évangile, de montrer que si on ne reconnaît pas l'amour de Dieu en la personne du Christ, c'est que vraiment, on n'a rien compris. On est dans un état d'aveuglement, on met notre espoir sur autre chose, il faut se recentrer. Il faut se dire que Dieu nous aime au point de nous rencontrer en entrant dans la création par son Fils. Et là, bah, si on lui tourne le dos, c'est qu'il y a un problème réel. Et ce problème n'est pas une question d'interprétation. C'est du pain qui est donné quand on a faim et qu'on crève de faim, sinon. Et c'est de l'eau qui est donnée quand on est assoiffé. Après, ce qui est très intéressant dans le ministère de Jésus, c'est qu'il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement dire « je suis une réponse à ta soif existentielle, à ton besoin d'aller au-delà de ce mur qui est représenté par la mort ». Parce que Jésus aussi partageait l'eau, le pain, le vin avec des personnes. Et souvent, les personnes avec lesquelles il partageait ces repas étaient des personnes qui étaient marginales, les exclus, les pauvres. Et donc, il instituait un rituel où le vin plutôt, parce que bon, lavement des pieds pour l'eau, le vin et le pain reviennent régulièrement. Et le message est très beau parce que ce rituel qu'on vit, ce n'est pas le rituel de l'Église. Ce n'est pas pour dire, d'accord, maintenant, nous, on célèbre notre communion avec Dieu par le Christ. Et c'est donc notre célébration à nous de cette vie qui nous a été donnée. En fait, ce rituel signifie que si je veux être en communion avec Dieu par le Christ, il faut que j'accepte d'être en communion avec les personnes auxquelles le Christ a offert ces symboles. Et puisque Jésus a partagé ce symbole avec des pauvres, des marginalisés, des personnes en difficulté, des personnes qui avaient vraiment besoin, si je veux être en communion avec Jésus, il faut que je sois en communion avec ces gens-là aussi. Donc, vous voyez qu'il y a,
tellement
plein de choses qui se...
Ah oui, on voit, on a envie, on se dit, ok, en fait, finalement, si tu commences, c'est une vraie aventure, finalement, d'aller explorer toutes ces pistes, de voir tous ces liens. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir joué le jeu, de nous titiller, finalement, sur ces textes de l'Ancien Testament qui, finalement, nous font dire beaucoup de choses sur Jésus.
Merci.
Dans le livre de Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
Nous te remercions, Seigneur, parce que ton amour envers nous est incroyable. Tu es patient, tu es proche, tu parles un langage qui nous est familier, et pourtant tu nous invites à aller au-delà, à pouvoir grandir, mûrir, à pouvoir nous projeter vers l'avant, à la suite de ton Fils. Merci parce que c'est lui qui nous permet d'orienter nos cœurs vers toi et vers notre prochain. C'est lui qui nous apprend à lire et à relire la Bible pour que l'on puisse découvrir dans cet écrit le fruit délicieux de l'Évangile. Un fruit qui nous nourrit, qui nous libère, qui nous soulage, qui nous guérit. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce Christ n'est pas simplement une histoire, mais c'est le Dieu vivant qui nous visite, qui frappe à la porte de notre cœur, qui veut habiter dans nos foyers. Nous voulons l'accueillir, nous voulons te remercier pour la vie qu'il apporte. Et merci encore une fois, Seigneur, pour ce cadeau merveilleux qu'est l'Écriture, que nous puissions non pas simplement aller vers elle pour la lire d'une manière sporadique, mais en faire un lieu de rencontre privilégié avec ton Fils. C'est en son nom que nous te prions. Amen.
Amen. Alors Stéphane, quelle est l'action de la semaine ?
Cette semaine, je te propose, cher auditeur, auditrice, de choisir une histoire que tu aimes dans la Bible. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs histoires, il y a beaucoup d'histoires de Jésus, mais tu as besoin de la lire plusieurs fois.
Bah pourquoi plusieurs fois ?
C'est qu'en lisant plusieurs fois que nous pouvons voir vraiment les détails des histoires, les liens avec d'autres histoires. C'est vraiment ça qui est important. Une fois que tu connais vraiment ces histoires-là, il faut faire une liste des choses que tu peux appliquer dans ta vie. Si tu n'as pas d'histoire préférée, je peux vous conseiller une de mes histoires préférées, c'est celle de Joseph en Égypte. Elle se trouve dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 37. Ce que je peux retirer de cette histoire et appliquer dans ma vie, c'est l'exemple de Joseph. Comment il était fidèle à Dieu ? Comment on doit être fidèle sur notre lieu de travail, et quel que soit l'endroit ou situation. On peut aussi reprendre l'histoire du pardon qu'il y a avec ses frères. C'est très important. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fait cet exercice-là, c'est que chacun peut retirer quelque chose de différent de l'autre.
C'est pour ça que ça peut être intéressant après que tu trouves un partenaire avec qui échanger.
Et je t'encourage vraiment à le faire.
Eh bien écoute, merci pour cette invitation à se plonger dans ce passionnant livre qu'est la Bible. Que nos auditeurs et auditrices qui souhaiteront vivre ce défi puissent être bénis et puis guidés. Nous voilà arrivés à la fin de notre temps de culte. Merci beaucoup Stéphane et Marilyn pour vos préparations, vos partages. Soyez bénis mes amis alors que vous êtes engagés auprès de cette radio. Mais je sais aussi dans plein d'autres ministères pour le Seigneur. Merci Lucas d'être venu dans notre studio pour vivre ces deux cultes avec nous. Nous avons eu du plaisir à vivre ces temps avec toi pour Dieu. Sois béni dans tout ce que tu es, dans ce que tu vis avec Dieu. Nous pensons aussi à ta femme, ta fille, que le Seigneur les bénisse aussi également.
Merci, merci pour l'accueil.
La semaine prochaine, nous serons ravis de vivre ce que nous appelons un culte chroniqueur, un temps spécialement conçu avec amour et soin par notre équipe, avec notamment le retour d'une chroniqueuse et coproductrice de cette émission, Marina. En attendant, chers auditeurs et auditrices, si le culte du jour t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Sois béni, gardé, protégé pendant cette nouvelle semaine et à la semaine prochaine. Bye!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.